Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel, minuit à Moroni aux Comores, le pays de Goulam qui était notre invité, et 23h à Paris où Goulam sera en concert le 3 mai. Et le journal est présenté par Pierre Boudias. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Claudie, bonsoir à toutes et à tous. Tension maximale dans la région contestée du Cachemire. Le Pakistan assure détenir des informations sur une attaque indienne imminente. Islamabad rejette les accusations de soutien au terrorisme portées par New Delhi. C'était aussi ses 100 premiers jours à la vice-présidence américaine. Le numéro 2 de Donald Trump, J.D. Vance, omniprésent sur la scène internationale. Pas question pour autant de faire de l'ombre aux locataires de la Maison Blanche. Vous l'entendrez. Il y a 50 temps jour pour jour, Saigon tombait, les GI américains quittaient précipitamment la capitale sud-vietnamienne face à l'avancée des forces communistes. Retour dans ce journal sur un épisode méconnu, l'évacuation de 3000 orphelins et métis. Et puis un nul dantesque ce soir au Camp Nou, Barcelone et l'Inter Milan se neutralisent 3 buts partout en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Résumé de la rencontre avec Sofiane Amazian dans un instant. Ce sont donc deux puissances nucléaires qui continuent leur escalade verbale une semaine après l'attentat meurtrier qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien. Le Pakistan assure détenir des informations crédibles sur une frappe indienne imminente. New Delhi accuse depuis plusieurs jours Islamabad de soutenir le terrorisme transfrontalier dans la région contestée par les deux voisins. Et après plusieurs nuits d'échanges de tirs, les craintes de déclenchement d'un conflit ouvert ne cessent de s'accroître. RFI Islamabad, Sonia Ghezali.
Des rafales de l'aviation militaire indienne volées près de la ligne de contrôle dans le Cachemire indien la nuit dernière, selon des médias pakistanais. Information qui suit les déclarations d'Ataullah Tarar, le ministre pakistanais de l'information.
Pakistan has credible intelligence.
Le Pakistan dispose de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde a l'intention de mener une action militaire contre le Pakistan dans les 24 à 36 heures à venir, sous le prétexte d'allégations infondées d'implication dans l'incident de Pahalgam. Le rôle de juge, de jury et de bourreau que l'Inde s'arroge dans la région est imprudent et rejeté avec véhémence.
Le Pakistan suggère l'ouverture d'une enquête indépendante menée par une commission d'experts neutres sur l'attaque du 22 avril dans le Cachemire indien. L'Inde refuse, selon le ministre Tarar.
Malheureusement, au lieu de suivre la voie de la raison, l'Inde a apparemment décidé de s'engager sur la voie dangereuse de l'irrationalité et de la confrontation, ce qui aura des conséquences catastrophiques pour toute la région et au-delà.
Tous les yeux sont rivés sur la ligne de contrôle qui sépare les deux puissances nucléaires, dans la crainte que la situation dégénère. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
L'armée pakistanaise assure avoir discuté hier des échanges de tirs avec ses homologues indiens, un appel de routine selon le porte-parole de l'armée pakistanaise. Dans un appel téléphonique avec le secrétaire d'État américain, le premier ministre pakistanais a lui accusé New Delhi de provocation. Marco Rubio, qui a appelé Islamabad à condamner l'attaque au Cachemire et à coopérer dans l'enquête. Marco Rubio, Pete Hegseth ou encore Elon Musk, c'est une partie des personnalités clés des 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Les 100 jours les plus réussi de l'histoire américaine, selon le locataire de la Maison Blanche qui promet que le monde n'a encore rien vu. Lors de ces 3 mois, il y a une autre figure que l'on aura beaucoup vue. J.D. Vance, le vice-président américain, d'abord discret, l'ex-sénateur de l'Ohio, fidèle du mouvement MAGA, a rapidement imposé sa parole, notamment sur les sujets de politique étrangère. Rarement un vice-président s'était autant fait remarquer, rompant avec la tradition américaine de ne pas faire d'ombre au président. Juliette Chénion.
Une scène en particulier a marqué cette rupture. Le mois dernier, J.D. Vance s'immisce dans la discussion entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, filmée en direct à la télévision.
Trouvez-vous respectueux de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaie de protéger votre pays? Vous devriez remercier le président.
Une manière pour J.D. Vance de prendre la lumière tout en prouvant sa loyauté au président. Ouvertement pro-Poutine, l'ultra-conservateur catholique assume le rôle de porte-flingue de Donald Trump. Il prône une politique étrangère radicale, America first, l'Amérique d'abord, comme il l'a montré lors de son virulent discours à Munich à l'égard des Européens, trop répressifs à son goût, contre l'extrême droite. À la Maison Blanche, l'ancien sénateur de l'Ohio est perçu comme un intellectuel, aussi éloquent à la télé que sur les réseaux sociaux, et capable de donner une certaine cohérence aux idées du président. J.D. Vance est aussi un trait d'union entre les populistes du mouvement MAGA et les libertariens de la tech américaine, Tout cela semble le désigner comme l'héritier du trumpisme, de là à être adoubé pour 2028. Non à couper court Donald Trump, avant d'ajouter « mais il est très compétent ».
Juliette Chénion est interrogée sur le recul du PIB américain depuis son retour aux affaires. Donald Trump a rejeté la faute sur son prédécesseur Joe Biden. Cette contraction de 0,1% de la croissance américaine est un reliquat de l'administration précédente et n'a rien à voir avec les droits de douane imposés à ses partenaires commerciaux. C'est l'un des autres dossiers marquants des trois premiers mois du républicain à la tête des États-Unis. Le bras de fer engagé avec le Canada. À l'en croire toujours déterminé à faire de son voisin le 51e État américain, Donald Trump recevra le Premier ministre Mark Carney la semaine prochaine. Réélu lundi à la tête du Canada, le libéral avait déclaré dans son discours de victoire que l'ancienne relation avec Washington était terminée. Il a accusé le président américain de tenter, je cite, de briser son pays. RFI, il est 23h05 à Damas, la capitale syrienne, théâtre d'un important déploiement des forces de sécurité après des heurts entre forces pro-gouvernementales et communautés druzes, débutées dans la ville de Jaramana avant de s'étendre à Sanaa. Ces affrontements communautaires ont fait au moins 39 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Situation rendue d'autant plus confuse qu'Israël a mené des frappes sur le secteur au nom de la défense de la minorité druze, frappe condamnée par le président Ahmad al-Sharet, tandis que l'ONU dénonce des violences inacceptables. On l'appelle le jour de la réunification ou de la libération au Vietnam, tout simplement la chute de Saigon en Occident. Il y a 50 ans, jour pour jour, la capitale sud-vietnamienne tombait aux mains des forces communistes d'Ho Chi Minh, la fin de près de 20 ans de guerre qui auront coûté la vie à des millions de Vietnamiens et à 58 000 Marines américains. Quelques semaines avant de solder l'échec de sa présence militaire au Vietnam, les États-Unis mobilisent alors 2 milliards de dollars pour une large opération humanitaire surnommée Baby Lift. L'objectif, évacuer plus de 3000 orphelins et métis. Grâce à des archives et des témoignages, Chifong Nguyen du service vietnamien de RFI a remonté le fil de cette histoire racontée par Nicolas Roca.
Début avril 1975, Philip Wise, infirmier militaire américain, apprend qu'il participera à une gigantesque opération d'évacuation.
Le commandant a dit « Écoutez, Saigon va bientôt tomber et il y a un groupe d'orphelins métis américains qui sont piégés dans Saigon. Ils doivent être évacués immédiatement. »
Des enfants de soldats ou des orphelins partent avec un premier avion. 300 personnes sont à bord quand, quelques minutes après le décollage, l'appareil atterrit en catastrophe dans une rizière. Devaki Murch était à bord.
J'étais un des enfants embarqués dans l'avion. Nous avons eu de la chance que le pilote parvienne à atterrir en urgence. Le compartiment réservé aux soldats est resté debout. S'il avait basculé ou s'il s'était brisé, il y aurait peut-être eu plus de dégâts.
Plus de 150 personnes meurent. Les enfants survivants sont adoptés aux États-Unis ou en Europe. Sandy Kersi arrive en France. Plus tard, devenue adulte, elle retourne au Vietnam à la recherche de ses origines.
J'ai retrouvé en fait ma nourrice. Et un jour, elle m'a dit, mais tu sais, quand j'étais avec justement les responsables de l'association, ben, on savait que si on allait voir telle dame, un échange de quelques centaines de dollars, on savait qu'on pouvait avoir des bébés, quoi, des nourrissons.
Présentée comme une opération humanitaire en Occident, au Vietnam, l'affaire est aussi perçue comme un kidnapping de masse. Certains des enfants n'étaient pas orphelins.
Nicolas Roca, et puis du football, et un match qui n'avait de nul que le nom. Pas de vainqueur entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Mais quel spectacle dans cette demi-finale allée de la Ligue des Champions. Score final 3 buts partout au Stade Olympique. Luis Compagni, le Barça a été mené au score par deux fois, mais a su revenir pour garder toutes ses chances d'atteindre la finale. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Comme souvent, le jeune joyau espagnol Lamine Yamal a éclaboussé la rencontre de son talent.
Ouais, l'ailier a d'ailleurs battu deux nouveaux records ce mercredi soir face à l'Inter. Plus jeune joueur a disputé 100 matchs avec le Barça et a marqué en demi-finale de Ligue des Champions à 17 ans et 292 jours devant un certain Kylian Mbappé. La jeune pépite a d'abord du mal à démarrer comme son équipe menait rapidement 2-0 avec des buts magnifiques signés Marcus Thuram et Denzel Dumfries. Scénario catastrophe à Barcelone. Lamine Yamal, cheveux teints en blond, demande au sien de se calmer avant de débuter son récital. Un slalom dans la surface pour le 2-1. Puis cette barre transversale touchée quelques minutes plus tard avant l'égalisation méritée de Ferran Torres sur une offrande du Brésilien Rafinha. 24e passe décisive de la saison. Supérieur techniquement, le Barça se fait surprendre en deuxième période sur corner pour le doublé de Dumfries avant de revenir au score, encore grâce à la frappe sèche de Rafinha contrée par le gardien de l'Inter Yann Sommer. Yamal a même eu une balle de match, mais son tir brossé a une nouvelle fois heurté la barre. Que d'émotion Pierre, pour un match aller. La deuxième partie, ce sera mardi prochain.
Ah, quel match, merci Sofiane Amazian. Et on rappelle que demain, place aux demi-finales aller de Ligue Europa, Tottenham reçoit le Bodo Glimt. Manchester United se déplace sur la pelouse de Bilbao. Presque 21h10 en temps universel. Bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.